Vous êtes sur Radio Couleur Chartreuse, c'est l'heure du point N. Votre rendez-vous nature et environnement sur Radio Couleur Chartreuse. RCC. Des cerises au mois d'octobre, c'est une des propositions potentiellement avancées par le Parc naturel régional de Chartreuse grâce à l'expertise du CRBA, le centre de ressources de botanique appliquée basé à Marcy-l'Étoile, près de Lyon. L'an dernier, nous vous parlions sur les ondes de votre radio associative préférée d'une initiative visant à recueillir auprès des agriculteurs et des particuliers de la Chartreuse et des alentours des semences un peu oubliées mais encore présentes dans le potager ou dans les greniers. Depuis longtemps, et avant l'avènement de l'agriculture intensive poussée à la chimie, nos anciens n'avaient d'autre choix que de tenter d'adapter les espèces à leurs conditions locales d'existence, notamment climatiques. Aujourd'hui, après un siècle d'excès en tout genre, ayant mis à mal la diversité des espèces, le biotope des terres agricoles, la qualité de l'eau, et après des menaces avérées sur notre santé à tous, ces espèces acclimatées et résistantes vont sans doute nous aider à retrouver progressivement une agriculture plus douce pour la terre, plus proche des consommateurs, plus respectueuse des cycles naturels et de toutes les petites bêtes et insectes auxiliaires si précieux de nos cultures. Stéphane Croza, ethnobotaniste, historien d'art des jardins et directeur du CRBA, nous parle du fruit de ses recherches, de l'origine de ces espèces anciennes, des acteurs de leur acclimatation et des perspectives d'avenir. Et pour lancer notre conversation, je lui ai demandé si la récolte de variétés anciennes auprès de la population et des agriculteurs avait été fructueuse.
Oh bah, elle était même inespérée parce que honnêtement, on ne pensait pas retrouver autant d'informations. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler sur différentes régions et là, la récolte a été exceptionnelle. Ça représente un petit millier de documents quand même. Ça, c'est pas mal parce qu'on a, aux enquêtes de terrain faites auprès de la population, ajouté une recherche documentaire. Et puis, on a mené à peu près 35 enquêtes sur une vingtaine de communes à l'échelle vraiment de la totalité du parc, aussi bien côté Isère que côté Savoie. Et les données, oui, sont vraiment riches, aussi bien au niveau du terrain, puisque les gens nous ont expliqué les variétés qu'ils cultivaient, enfin nous ont montré, nous ont donné des graines même, hein, de variétés qu'ils cultivaient parfois depuis trois générations, d'autres depuis moins longtemps. Certains se sont intéressés aussi du coup à cette problématique, ils n'avaient jamais pensé à ça. Je pense notamment à des vieux arbres fruitiers qui sont en train de tomber sous les dernières tempêtes, et les gens se disent, oh, mais tiens, oui, ils ont été plantés par des gens il y a une, deux, trois générations, et ils vont disparaître. Et c'est quoi? On n'en sait rien, il faut identifier les variétés, comment on les valorise, comment on les conserve. Finalement, on a l'habitude de les manger, mais on ne s'est jamais posé la question. Enfin, ça a suscité tout un tas d'enjeux, d'intérêts, de questions, et avec des résultats assez contrastés, puisque on a aussi bien des données, on va dire, de moyenne ou haute montagne, hein, jardin potager, etc., que des choses en plaine, parce qu'on a notamment beaucoup de données documentaires sur toute la partie, enfin Piémont, enfin Valais, Grésivautant notamment, mais aussi Saint-Martin-le-Vinou, Voiron, remontant jusqu'à Saint-Laurent-du-Pont. Et là, on est dans des choses complètement différentes. Je pense notamment aux anciens jardins, potagers, vergers, des propriétés bourgeoises. Enfin, c'est complètement différent du potager d'un fermier au sommet de la Chartreuse. Donc, c'est très, très contrasté.
Vous avez fait un petit peu le même travail dans d'autres régions, puisque c'est votre métier. Est-ce que vous avez trouvé cette région vraiment très riche par rapport à d'autres ?
Alors oui, parce que il y a une initiative dans la deuxième moitié du 19e siècle qui a fait qu'un certain nombre d'acteurs locaux, notamment à travers un journal qui s'est appelé à l'époque le Sud-Est, où les gens ont organisé le fait de rechercher de nouvelles variétés qui étaient intéressantes pour l'agriculture à l'époque. On est au milieu du 19e siècle, hein, ça commence vers 1850 à peu près, 52. Les variétés sont envoyées auprès des agriculteurs et ou des propriétaires terriens, bourgeois, châtelains, etc. Et les personnes qui, enfin le rédacteur en chef, on peut dire finalement à l'époque, a demandé aux gens de lui écrire en expliquant quel était l'intérêt des variétés, qu'est-ce que ça avait donné, etc. Et il a publié ça dans son journal. Et ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs. C'est vrai qu'on a vraiment des résultats sur l'expérimentation des variétés à l'époque. C'était vraiment une des clés du développement de l'agriculture et de l'horticulture locale. C'était le cas partout, mais les autres n'ont pas écrit.
Est-ce que c'est dû à une situation géographique particulière? Je pense notamment ici au Grésivaudan, puisque pour avoir lu des livres un petit peu historiques sur l'histoire locale, notamment les livres de Monsieur Augustin Émose, décrivaient les coteaux et les débuts de la vallée du Grésivaudan comme un véritable pays de cocagne, dans ce Dauphiné, en quelque sorte, le potager du roi, quoi.
Oui, alors il y a effectivement cette vallée, enfin la partie haute hein, de la vallée du Grésivaudan entre Grenoble et puis jusqu'à au-delà de Barreau. Hein, il y a effectivement un contexte particulier favorable. D'abord parce qu'on est dans la vallée de l'Isère, donc il y a tous les terrains alluviaux avec une richesse de sol vraiment particulière. Il y a aussi un certain nombre de spécificités un peu techniques ou de variétés comme ça qui se sont développées parce qu'elles étaient adaptées. Et puis aussi quand même parce que je le décrivais tout à l'heure, on est dans une terre de contraste, c'est-à-dire qu'entre les plaines riches et puis le sommet des montagnes, pas toujours pauvres d'ailleurs au niveau du terrain, hein, mais on a eu une diversité comme ça de production totalement différente parce qu'on était à des altitudes différentes. Par exemple, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui était très pratiqué dans toutes les zones de montagne, je pense à la Corse par exemple notamment, où les agriculteurs se débrouillaient pour être propriétaires de terrain en plaine près de la mer et jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Ici, c'est la même chose. On a par exemple un document qui nous explique qu'on cultive des cerisiers en plaine, mais qu'on va cultiver les mêmes fruitiers, enfin les mêmes cerisiers ou d'autres variétés plus adaptées à la montagne, jusqu'à 1300-1400 mètres d'altitude. Et à l'époque, ça permettait de récolter des cerises de la fin mai jusqu'à la fin octobre. Aujourd'hui, les cerises fin octobre, on les fait venir du Maroc ou d'Amérique du Sud, mais plus produites dans la région, alors qu'on pourrait tout à fait le refaire. Et c'est quand même intéressant de le savoir et de se dire, bah, après tout, pourquoi pas réexpérimenter. Et à partir du moment où on veut produire localement des variétés de meilleure qualité, aussi nutritionnelle, hein. Souvent ces variétés locales, anciennes, sont associées à une meilleure qualité alimentaire. Bah, c'est intéressant de le savoir, de le découvrir et pourquoi pas de le réexpérimenter aujourd'hui.
Alors, on est bien d'accord, on parle de variétés locales, et en même temps, beaucoup sont locales parce qu'elles ont été adaptées localement ou obtenues localement. Alors, à partir de quoi? D'un patrimoine végétal sauvage, d'une part, et puis d'importations aussi du monde entier.
Alors en Europe et en France notamment, essentiellement à partir de végétaux qui ont été introduits au fil du temps, de l'histoire. Hein. Les Romains ont commencé la vigne, par exemple, dans la région. Ils n'étaient pas très loin, hein, de l'autre côté des Alpes. Quand ils sont arrivés, quand la ville de Grenoble est créée par les Romains, ils apportent la vigne. Et puis c'est comme ça au fil du temps, des découvertes. On pense notamment, hein, si vous enlevez les découvertes de l'Amérique, il n'y a pas de haricots, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas tout ça. Il y a eu, je pense à Crolles, par exemple, là, ici. Qui est une ville, qui a une commune qui a énormément développé la culture du maïs, qui a même créé une variété qui s'appelle le maïs Crolles, qu'on a retrouvé. C'est évidemment quelque chose qui au départ vient d'Amérique du Sud. Donc ces plantes ont été domestiquées quelque part dans l'espace-temps sur cette planète, mais c'est au fil du temps que les Européens, les Français et les Dauphinois se sont appropriés ces variétés, les ont développées, améliorées, recréées, etc.
Parmi ceux-ci, en Chartreuse, parmi les promoteurs de ces nouvelles variétés ou même les créateurs, les pères Chartreux, bien sûr.
Alors complètement, c'est même le point de départ, hein, puisqu'ils s'installent très tôt au Moyen-Âge, et c'est vraiment eux qui vont développer l'agriculture, les techniques, l'exploitation des forêts, des eaux, etc., et bien sûr la culture. Et notamment une de leurs grandes spécialités a été celle des arbres fruitiers, puisque non seulement ils ont adapté des variétés, mais ils ont aussi développé tout un tas de techniques. Je pense en particulier à la culture des arbres en espalier, hein, qu'on palisse sur des murs, pour qu'ils soient au chaud, avec des fruits plus exposés au soleil, donc plus sucrés, de meilleur goût. Et c'était des techniques assez complexes qu'ils ont développées, diffusées, non seulement en Chartreuse, mais au-delà, dans toute l'Europe.
Alors, quels sont les retours que vous avez eus de la part des gens qui ont bien voulu participer à ces nombreuses réunions? Retour matériel et puis retour en intention?
Alors, les intérêts sont complètement divers, parce qu'il y a aussi bien une dimension, par exemple, patrimoniale. Il y a un certain nombre de gens, de communes qui nous ont dit « nous, on aimerait bien valoriser les variétés originaires de notre commune ou nos pratiques », ou là, on est plutôt dans une dimension culturelle, patrimoniale. Dans la dimension patrimoniale, il y a aussi la partie technique, agricole, enfin plus scientifique ou plus concrète, plus terrienne, où les gens ont envie de valoriser ces variétés, notamment à travers, par exemple, pour les fruitiers, la création de vergers, mais aussi pour les légumes, la valorisation chez les maraîchers de certaines variétés qu'on pourrait imaginer retrouver demain sur les marchés ou chez les restaurateurs. Là encore, parce que ces variétés sont considérées souvent de meilleure qualité, mais aussi mieux adaptées à leur sol, leur climat. C'est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Ça va être, avec notamment le réchauffement climatique, l'évolution du climat, de trouver des variétés qui soient adaptées précisément à leur territoire. Donc ça peut être ce type de valorisation, par exemple.
Et réduire la chimie,
puisque... Alors, c'est aussi l'intérêt, on peut se poser la question de savoir pourquoi on fait de la recherche, notamment historique, sur des variétés, sur des végétaux, sur des plantes. C'est parce que avant les années 1930, enfin avant la Seconde Guerre mondiale surtout, les gens disposaient de pas ou de peu de chimie, et les variétés étaient adaptées à ces conditions de climat particulières. Et on se passait de la chimie. La création génétique de nouvelles variétés, etc., a fait qu'on a cherché à créer des variétés adaptées à tout espace, tout temps, mais ça n'est possible que parce que ces variétés créées en laboratoire peuvent s'adapter et presque s'affranchir du sol et du climat grâce à la chimie. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir s'en passer. Où est-ce qu'on va aller puiser ce qu'on va manger demain? C'est précisément dans ces variétés anciennes et locales. Et à quoi elles servaient, comment elles étaient utilisées et pour qui? C'est la documentation qui nous le dit, et bien sûr l'expérience des gens sur le terrain.
Maintenant, vous allez recueillir les bonnes volontés, si je peux dire, de partenaires éventuels, que ce soit des particuliers, des agriculteurs, des institutionnels, des communes, des parcs, etc. Et quelle sera la prochaine phase ?
Alors, la prochaine phase, ça va être de récolter déjà les variétés qu'on a repérées sur le terrain. On a déjà commencé à en récupérer chez certains habitants. C'est partir aussi des listes historiques pour retrouver des variétés qui ont disparu de la région, mais qu'on peut retrouver, notamment conservées dans des grandes banques de semences mondiales. On travaille actuellement avec la Russie, l'Amérique du Sud, enfin différentes collections mondiales où on peut retrouver ces variétés. Et puis organiser déjà leur conservation, la redistribution aux gens, et puis organiser aussi autour de ça tous les aspects pratiques, techniques, comment est-ce qu'on produit les graines, comment est-ce qu'on va justement valoriser ces variétés dans nos assiettes, etc. Et ensuite, l'idée, c'est de créer dès cette année, donc c'est la phase 2 de ce travail, des groupes de travail autour de, en gros, 8 ou 9 grandes thématiques, alimentation, patrimoine, tourisme, enfin, etc., pour justement pouvoir valoriser directement ces variétés dans l'économie locale, qu'elles soient d'ailleurs culturelles ou agricoles.
Voilà, l'idée au bout du compte, c'est d'avoir une filière locale intégrée qui comprend tous les aspects, toutes les dimensions, en tous les cas, de cette recherche.
Oui, tout à fait, c'est vraiment dans tous ces domaines, voir comment aussi bien les professionnels et collectivités, maraîchers, pépiniéristes, etc., mais aussi les habitants eux-mêmes peuvent déjà se les réapproprier, les réutiliser dans leur jardin, mais aussi avoir envie de participer à ce grand mouvement. Et plus les gens vont se les approprier, vont les utiliser localement, plus on s'adaptera justement à ces enjeux du futur, qui sont qu'on ne sait pas très bien comment évoluera le climat, le nouveau modèle économique et la nouvelle agriculture, surtout parce qu'elle est en train d'évoluer de jour en jour. Faut que tu respires.